Quant à la radio, nous avons abordé la manière de marquer le 80e anniversaire de la révolte du ghetto de Varsovie. L'idée de partir sur les lieux pour y prendre l'antenne en direct le 19 avril m'est apparue évidente. Pour le symbole, évidemment, mais aussi parce que, depuis plusieurs années, j'ai tissé un étrange lien avec ce pays. J'ai réalisé un documentaire sur le Festival des cultures juives de Cracovie, un reportage sur la montée de l'antisémitisme depuis l'arrivée au pouvoir du parti Droit et Justice, et puis j'ai suivi l'année dernière un convoi humanitaire sur l'aide à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Je connais les souvenirs douloureux qu'évoque le pays pour de nombreux juifs de France et partout dans le monde. La Pologne est souvent synonyme de massacre, de pogrom et d'un antisémitisme virulent. Pourtant, au cours de mes voyages, je n'ai cessé de rencontrer des Polonais montrant une vraie curiosité sur l'histoire de 3 millions de leurs compatriotes, pour la plupart exterminés et pour le reste expulsés. Aller à Varsovie, c'est l'occasion de rendre hommage aux héros juifs du ghetto, mais aussi de ressentir sur place la manière dont ces commémorations sont vécues par les Polonais. Je n'aurai que 24 heures sur place, assez pour réaliser deux émissions en direct. L'une, celle du matin, se fera depuis le 18 de la rue Mila, sur les lieux mêmes où Mordechai Anilevitch s'est donné la mort dans son bunker après des semaines de lutte héroïque, hors de question pour lui et ses camarades de mourir sous les balles allemandes. L'autre émission, celle du midi, se fera depuis la cérémonie où les trois présidents, israéliens, polonais et allemands, sont attendus. Arrivé à Varsovie la veille des commémorations, je retrouve Teresa, ma fixeuse. Une fixeuse est un terme journalistique qui désigne une personne, souvent journaliste elle-même, qui habite sur les lieux de votre reportage et qui vous cale des rendez-vous avec des personnes sur place, traduit et vous aide. J'ai déjà travaillé avec elle et elle m'a préparé un programme au pas de charge. J'arrive directement au musée Pauline, le musée de l'histoire juive de Pologne. Il a été créé en 2007 seulement à l'emplacement même de l'ancien ghetto. C'est sur ce parvis que se tiendra le lendemain la cérémonie officielle. L'atmosphère est au préparatif. Deux écrans géants ont été placés à côté de la statue érigée par Nathan Rapoport en 1948, rare hommage polonais aux 450 000 juifs qui vivaient ici avant que le quartier ne soit rasé. Hommage aussi aux centaines d'hommes et de femmes qui ont résisté aux nazis du 19 avril au 16 mai 1943. Je suis donc accueilli par Teresa et par Susanna Snepszkolacz. Elle est la conservatrice de l'exposition qui vient d'être inaugurée. Elle raconte la révolte d'un point de vue inédit, celui des civils.
C'est un moment spécial car nous sommes 80 ans après la révolte. C'est aussi spécial car nous commençons juste à parler des civils, ce qui est assez nouveau.
On traverse un couloir qui ressemble à une cave où six bunkers ont été en quelque sorte reconstitués pour évoquer la vie cachée alors que l'organisation juive de combat livrait la bataille à la surface. Il y a des citations, mais aussi quelques rares photos. Parmi ces photos, les 21 inédites du ghetto récemment retrouvées dans un grenier polonais.
Voici devant vous les tout premiers tirages photographiques du ghetto.
Susanna m'explique qu'il était hors de question pour le musée Pauline d'utiliser des photos de propagande prises par les nazis. Elle me montre cependant des photos prises par les Polonais ariens, comme on disait, de l'autre côté du mur.
Vous avez également ici les témoignages des Juifs qui ont réussi à fuir le ghetto. Ils sont du côté arien et ils regardent le ghetto brûler durant la révolte. Ils sont Juifs, mais la perspective est différente. Ils se sentent coupables de ne pas être avec leurs frères et leurs sœurs. Ils évoquent aussi l'attitude des Polonais durant la révolte, la solidarité, mais aussi de l'hostilité. Mais on peut dire que l'attitude dominante, c'était l'indifférence.
Il y a dans ce musée une agitation inhabituelle. Pour l'équipe du musée, c'est un moment assez particulier.
The fact that our museum is just in the middle of former ghetto site.
Notre musée est au cœur du ghetto, dans les fondations, il y a encore des vestiges de cette histoire et de bunkers. Dans toutes les maisons, vous trouverez ces bunkers. Partout sous la ville, il y avait ces cachettes. Nous sommes conscients que cet endroit est un immense cimetière. Et notre mission, c'est raconter cette histoire. Et également montrer à quel point cette histoire est reliée au lieu dans lequel nous sommes. Cette histoire s'est déroulée ici, ici où nous sommes, à l'endroit même où cette exposition a lieu. Et c'est la raison pour laquelle nous avons exposé des reconstitutions des pierres trouvées en construisant ce musée Pauline.
Nous sautons dans un taxi et nous arrivons quelques minutes après devant ce que les habitants de Varsovie appellent la Tour Bleue. Une tour de verre et d'acier érigée là même où se trouvait il y a encore 80 ans la grande synagogue de Varsovie, détruite le 16 mai 1943 par les nazis pour marquer l'anéantissement du ghetto après la révolte. L'artiste Gabi Van Steltman nous y attend. Elle est là depuis 6h du matin à préparer son installation vidéo. Elle a eu l'idée il y a 10 ans de projeter sur la façade des images de la synagogue et de la vie juive disparue.
Après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a même pas un seul bâtiment juif qui a été reconstruit à Varsovie.
J'ai découvert ça, je me suis dit que c'est pas possible. Un jour, je suis allée au cinéma, ici, on the other side of this place.
De l'autre côté de la place, et il y avait le coucher de soleil. Et je pouvais voir le soleil se refléter sur ce bâtiment, qui est fait de verre et de métal. Je me suis dit à ce moment-là, si on peut voir le soleil, on peut voir une projection de la synagogue. Et puis une autre question s'est posée. Combien de personnes ici savent qu'il y avait une synagogue ?
L'histoire tragique des Juifs de Varsovie résonne avec celle de son propre grand-père, mort à Auschwitz, un sujet dont elle ne parlait que très peu, tout comme de ses origines juives, découvertes très tard.
Non, je ne savais pas. Je ne savais pas, c'était très late. Mais aussi, puisque Pologne, c'est toujours difficile.
Pourquoi c'est difficile ?
C'est un pays catholique.
Hantée par cette mémoire juive, Gabi est allée plus loin. Il y a quelques mois, elle avait caché pendant 24 heures des haut-parleurs dans cet immeuble de bureau. On pouvait alors y entendre des prières. Mise en place pour la première fois lors du 75e anniversaire du soulèvement du ghetto, l'installation de projection, elle, est devenue un rendez-vous chaque 19 avril.
Beaucoup de gens me disent que désormais, quand ils passent à cet endroit, ils voient la synagogue dans leur imagination. C'est devenu comme un rituel. Les gens vont voir l'autre monument, le monument Rapaport, à côté du musée Pauline. Et puis le soir, ils viennent ici, voir ce monument virtuel.
Et malgré le succès de son installation, Gabi Van Steltman se montre de plus en plus inquiète quand on parle du rapport des Polonais à leur histoire.
J'avais l'impression que c'était beaucoup mieux. Et il y a 8 années, quand notre gouvernement a changé, ce sujet est devenu encore une fois politique. Vous savez qu'on peut réveiller les ressentiments, les strange behaviors,
les comportements étranges, la propagande, et c'est ce qui se passe en ce moment.
Nous saluons Gabi en regrettant de ne pas pouvoir vivre ce moment. Je serai déjà rentré demain lorsqu'elle projettera les images sur la façade. Bon, il y aura toujours YouTube pour se consoler. 10 minutes plus tard, je suis déjà avec le sociologue Rafal Pankowski. Il fait partie d'une association qui lutte contre les discours d'extrême droite qui se multiplient ces dernières années en Pologne. Je l'interroge sur le contexte politique et sur la dimension que donnait le pouvoir à ces commémorations.
Je pense que la commémoration sera de grande envergure en tant qu'événement officiel. Je connais également un certain nombre de personnes qui ne veulent pas participer à l'événement officiel parce qu'elles pensent que le parti au pouvoir ne soit pas vraiment sincère lorsqu'il s'agit de la lutte contre l'antisémitisme. Nous savons que ces dernières années, nous avons été confrontés à ce que l'on peut appeler à une crise de la culture des valeurs démocratiques en Pologne. Et je pense que la présence d'un discours antisémite dans la sphère publique est l'un des éléments de la crise de la culture démocratique. Je pense que ce que nous craignons également, c'est un discours très unilatéral sur l'histoire, le discours qui ne présente que, vous savez, que le côté positif des relations polono-juives et n'aborde pas les éléments difficiles de cette histoire, y compris l'histoire de l'antisémitisme en Pologne.
Pour ces commémorations, 450 000 étoiles en papier, symbole de jonquille, faisant aussi penser aux étoiles jaunes, seront distribuées dans la ville. Un chiffre pas choisi au hasard, il correspond à la population juive de la ville avant la Shoah. Je demande alors au professeur Pankowski comment sont perçues ces commémorations par les habitants de Varsovie eux-mêmes.
Vous savez, chacun a une attitude différente. Mais si vous vous promenez dans le centre de Varsovie aujourd'hui et demain, vous verrez de nombreuses personnes portant le symbole jaune du soulèvement du ghetto de Varsovie, la fleur en forme d'étoile juive. Bien sûr, 99,9% de ces personnes ne sont pas juives. Et je pense que cela montre quelque chose d'intéressant. Cela montre quelque chose qui, à mon avis, est très précieux. Cela montre un véritable intérêt de la part d'une partie de ces personnes qui vivent à Varsovie aujourd'hui, qui sont intéressées, qui sont curieuses, peut-être de découvrir, d'en apprendre plus sur l'histoire de cette ville et l'histoire de ce pays qui était autrefois très diversifié, très multiculturel, et en particulier la population juive de Varsovie, qui était une partie très importante de son histoire, de sa culture. Et pendant de nombreuses années, cette histoire, cette tradition, cet héritage ont été marginalisés. Elle n'était pas vraiment présente dans le discours dominant, et je pense qu'après de nombreuses années, de plus en plus de gens veulent découvrir cette histoire, cet héritage de ce qui était une société multiculturelle et diversifiée. Et encore une fois, pour en revenir au contexte contemporain, grâce aux réfugiés d'Ukraine, le grand nombre d'entre eux à Varsovie et en Pologne, la Pologne est en train de redevenir multiculturelle d'une manière assez spectaculaire.
Is actually becoming multicultural again.
Dernière étape de ma journée, un concert au Jewish Community Center de Varsovie, le JCC. Un petit bâtiment niché dans une cour, dans un quartier agréable. On y joue du Chopin, évidemment, mais aussi des airs de compositeurs juifs du ghetto. La salle, où une trentaine de chaises sont installées, est très clairsemée. Patricia Dolowy est la directrice du JCC. Un look underground, loin de ce qu'on pouvait imaginer de la vie juive de Varsovie. En réalité, il ne reste que très peu de choses.
Nous sommes ici au JCC, donc c'est un lieu que nous avons construit il y a 10 ans. Nous, les personnes jeunes, toujours jeunes encore, et on voulait créer un lieu qui était ouvert, qui était inclusif, qui était souvent ouvert aussi aux personnes qui découvrent qu'ils sont juifs, ce qui n'est pas en Pologne si rare. Et nous sommes souvent un premier pas, en fait, pour cette communauté. On est 400 personnes, des personnes qui sont les membres de notre communauté, et 4000 personnes qui sont autour, en fait.
Fin de journée pour moi. Il me faut vite rentrer à l'hôtel et monter les sons pour le lendemain. La nuit sera courte. À 8h, j'ai rendez-vous avec le bunker de Mordechai Anilevitch. Impossible de dormir cette nuit-là. Je suis prêt à 5h30 pour me rendre sur les lieux. Le direct est à 8h, le taxi me dépose au 18 rue Mila, adresse connue pour être le cœur de la révolte du ghetto. Mais il me dépose dans une zone qui ressemble à n'importe quelle cité dortoir construite à la va-vite dans les années 50 après la destruction du ghetto et de Varsovie tout entière. De gros blocs d'habitation et aucun mémorial. Je m'aperçois alors que je suis à 500 mètres du dit bunker. Le 18 rue Mila d'aujourd'hui n'est pas le 18 rue Mila d'hier. C'est alors que la pluie décide de tomber. J'arrive trempé au point de rendez-vous. Il y a une voiture de police qui surveille vaguement les lieux. Je retrouve mon invité, l'historienne Elżbieta Janiszka, très critique envers son pays et la responsabilité des Polonais dans la Shoah. Je me connecte à la régie à Paris avec un simple smartphone, mon cœur bat, rien d'exceptionnel, mais j'ai le sentiment de faire quelque chose d'important. Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mercredi 19 avril 2023 et nous sommes en direct de Varsovie. Il est 8h.
La matinale info, édition spéciale, 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie.
Numéro exceptionnel de la matinale info en direct de Varsovie du 18 rue Mila. C'est ici qu'il y a 80 ans, jour pour jour, une poignée de combattants juifs se sont levés contre la barbarie nazie, non pas pour sauver leur vie, mais pour sauver ce qu'il restait d'humanité. C'est donc depuis ce lieu symbolique que nous allons vous présenter cette matinale avec mon invité. Dans le cadre de notre semaine spéciale sur RCJ, nous avons donné un thème à chaque journée. Le premier jour abordait la construction et la vie dans le ghetto. La deuxième, la révolte en elle-même. Et la troisième, la manière dont les Polonais regardent leur histoire. Un sujet qui visiblement inspire mon invité, Elżbieta Janiszka.
Il y a une discorde entre la Pologne et Israël, mais il faut mentionner aussi qu'il s'agit là non pas tellement d'une mémoire, mais de la reconnaissance de la réalité des faits de la part d'un pays où, sous l'occupation allemande et tout en résistant contre les Allemands, les Polonais ont tué davantage de Juifs que d'Allemands. Ça fait 300 000 Juifs assassinés contre 3 000 Allemands assassinés. Cela a toujours été un sujet de discorde, effectivement, entre Israël et la Pologne, jusqu'à récemment. En 2018, les premiers ministres polonais et israéliens ont signé une déclaration conjointe qui mettait en équivalence l'antisémitisme, phénomène meurtrier bien réel qui a abouti à la Shoah, et un antipolonisme imaginaire.
Encore de nombreux reportages à suivre au cours de cette journée que nous avons intitulée « La Pologne face à son histoire ». Très belle journée à toutes et à tous sur RCJ. L'émission s'est déroulée sans accroc. J'éprouve une certaine émotion dans ce silence. Pas le temps de réfléchir, juste de me réchauffer dans un lobby d'hôtel où j'ai rendez-vous avec Alexandre Kaplan, un juif polonais expulsé en 1968. Il me raconte son histoire, la manière dont les Polonais ont pointé du doigt les juifs, soupçonnés d'être à l'origine d'une révolte anti-soviétique organisée par des étudiants. Résultat, les quelques milliers de juifs rescapés de la Shoah en Pologne finiront par partir cette année-là.
J'allais à l'école, on se battait avec les non-juifs. Qui criait le juifto, juifto, juifto. Donc on balançait des pierres, on se bagarrait avec eux. C'était assez souvent. Mais on ne ressentait pas, on n'entendait pas dans la presse de l'antisémitisme. C'était dans la rue, mais il n'y avait pas d'antisémitisme gouvernemental. Or la guerre de six jours fait qu'il y a un changement radical qui se produit en Pologne.
Retour au musée Pauline. Si le quartier était silencieux à 8 heures, il est désormais pris d'une vive agitation. Le dispositif de sécurité est aussi drastique que visible. Trois présidents sont donc attendus. Les délégations des organisations juives du monde entier passent le portique de sécurité pour accéder au lieu de la cérémonie. Contraste saisissant avec le concert de piano la veille. Je rentre dans le périmètre, mais je m'installe dans le parc, là où le public sera accueilli pour pouvoir commenter la cérémonie sans déranger. Peu à peu, des personnes plus âgées arrivent, puis des flots de collégiens et de lycéens. Il y a des drapeaux israéliens, il y a aussi des jonquilles dans toutes les mains. Cette fleur qui poussait malgré tout dans le ghetto en ce début de printemps. Et puis, j'entends de plus en plus parler hébreu. Il est midi, la deuxième émission commence au moment même où la sirène retentit. Je regarde autour de moi, les larmes coulent sur certains visages. Je commente ce que je vois, mais aussi ce que je vois sur l'écran géant. Ce plan de drone du quartier réalisé par la télé polonaise me glace. Je repense aux souffrances, aux privations, aux humiliations endurées par les Juifs de Varsovie dans cet espace, mais aussi aux résistances. La résistance armée, bien sûr, mais aussi la résistance culturelle, la résistance éducative. La cérémonie se poursuit, des ados entonnent le chant des partisans juifs du ghetto. Les discours s'enchaînent, le président polonais Duda d'abord, le président Herzog ensuite et enfin le président allemand Steinmeier.
חשבון הוא פשוט. בפעם האחרונה אני רואה את השמיים הכחולים בין העננים. היום...
Je rends alors l'antenne alors que la cérémonie se poursuit. Pas le temps de rester, je dois déjà repartir vers l'aéroport pour être en studio le lendemain à 8h. Dans le taxi, la pluie s'arrête et puis le ciel s'éclaircit un peu. Cette émission n'était qu'une goutte d'eau, mais c'était notre manière de dire à des millions de juifs polonais exterminés qu'on n'oubliait ni leur calvaire, ni leur courage.